VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du mardi 26 juillet 2016. Au sommaire ce soir.
Après son expulsion du Kenya et l'annulation de son concert en Zambie, Kofi Olomide, interpellé par la justice congolaise.
En Somalie, 13 morts dans une nouvelle attaque terroriste à Mogadiscio.
Libye, la présence militaire française dans l'Est suscite des préoccupations à Tripoli.
En France, un prêtre égorgé dans une église par deux hommes armés de couteaux, une attaque revendiquée par le groupe État islamique.
Présidentielle américaine, Bill Clinton défendra la cause de son épouse ce soir à la Convention démocrate.
C'est un risque mitigé, si je puis dire, dans la mesure où c'est toujours imprévisible avec Bill Clinton.
D'abord, le journal.
Le célèbre chanteur congolais Kofi Olomide a été interpellé à son domicile de Kinshasa. Samedi dernier, il a été expulsé du Kenya après avoir été filmé donnant un violent coup de pied à une de ses danseuses, Eddie Isango.
Kofi Olomide a été interpellé en exécution des mandats du procureur qui voudrait l'entendre sur un sujet qui n'est pas révélé. Un député congolais, Zakari Bababassoué, affirme avoir déposé une plainte contre les célèbres chanteurs du Rumba. Réagissant sur sa page Facebook, l'artiste âgé de 60 ans a appelé ses fans à garder leur sang-froid. Antoine Agbeipa Mumba, alias Kofi Olomide, avait été expulsé samedi du Kenya après avoir été filmé la veille à l'aéroport de Nairobi en train de donner un violent coup de pied à l'une de ses danseuses. Dans la foulée, les autorités zambiennes ont annulé un concert qu'il devait donner à Lusaka. En août 2012, Kofi Olomide, auteur de 26 albums, avait été condamné à Kinshasa à 3 mois de prison avec sursis pour coups et blessures volontaires contre son producteur.
Les forces américaines se sont entraînées à Thiès, au Sénégal. Cette simulation d'intervention d'urgence en Afrique rassemblait quelque 200 soldats américains et environ 200 parachutistes sénégalais. L'Africa Readiness Training, qui a duré 2 semaines, a pris fin aujourd'hui. Il faut dire qu'un accord signé en mai entre Dakar et Washington permet la présence de forces américaines au Sénégal.
Au moins 13 personnes ont été tuées ce mardi près de l'aéroport de Mogadiscio dans un double attentat suicide à la voiture piégée revendiquée par les islamistes Shebab. Le point avec Nani Talani.
D'après un responsable de la police, Bichar Abdi Guedi, 2 explosions de véhicules ont eu lieu aux abords des locaux de l'ONU et de la force de l'Union africaine en Somalie. Des tirs ont suivi mais ont rapidement cessé. Une portion du mur d'enceinte de l'aéroport a été détruite par l'explosion de l'une des voitures. Les forces de sécurité somaliennes et celles de l'AMISOM ont aussitôt bouclé le périmètre, protégé par des engins blindés. Les islamistes Shebab ont revendiqué cette nouvelle attaque dans la capitale somalienne. Selon leur communiqué, les explosions ont été menées par 2 courageux moudjahidines qui ont ciblé 2 endroits différents où sont basés les soldats de maintien de la paix qui sont qualifiés de kafirs, c'est-à-dire mécréants.
Conflit au Soudan du Sud, plus de 37 000 personnes ont fui le pays pour se réfugier en Ouganda après les combats qui ont éclaté du 8 au 11 juillet à Djouba, la capitale. Tels sont les chiffres du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés.
Afrique du Sud, le dirigeant noir du principal parti d'opposition accuse l'ANC, formation au pouvoir, de jouer la carte raciale pendant la campagne pour les municipales du 3 août prochain.
En Libye, l'ambassadeur de France a été convoqué par le chef du gouvernement d'Union nationale. Fayed al-Sarraj souhaite des explications sur la présence militaire française dans l'est du pays, où siège un gouvernement non reconnu par la communauté internationale. Il dénonce une ingérence inacceptable. Rappelons que la France, qui niait jusqu'alors être déployée en Libye, a annoncé la semaine dernière la mort de 3 de ses soldats dans ce pays.
Concernant la Libye, toujours, les autorités entendent lancer une action aux civils au Royaume-Uni pour tenter de récupérer les millions de livres emportés illégalement par d'anciens proches de Muammar Kadhafi.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le groupe État islamique a encore frappé en France. Un prêtre a été égorgé aujourd'hui dans l'église Saint-Étienne de Rouvray, une petite ville de 29 000 habitants dans la banlieue de Rouen, en Normandie. Le point avec Christophe Mpanzou.
Peu après 9h30, deux hommes pénètrent dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, dans l'ouest de la France, lors de la messe matinale. Les deux individus prennent en otage quatre personnes, un prêtre, deux religieuses et deux fidèles venus assister au culte. Rapidement, les troupes d'élite françaises, le RAID et la BRI sont alertées et bouclent le périmètre tout autour de l'église. Les deux hommes, se réclamant de l'État islamique, ont fait une victime, un prêtre de 84 ans et un blessé grave avant d'être abattu sur le parvis de la paroisse. Le président de la République, François Hollande, s'est tout de suite rendu sur les lieux du drame en compagnie de Bernard Cazeneuve, son ministre de l'Intérieur. Ses premiers mots ont été clairs. Daesh nous a déclaré la guerre. Nous devons mener cette guerre par tous les moyens. L'État islamique a d'ores et déjà revendiqué cet attentat via son agence de presse Hamak. Dans les jours qui viennent, le gouvernement français devrait prendre des décisions radicales pour accentuer sa lutte contre le terrorisme. Depuis Paris, Christian Panzou pour VOA Afrique.
Les forces du régime syrien ont pris ce mardi le contrôle d'un quartier rebelle en périphérie d'Alep, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Nathalie Barge.
Les forces du régime ont pris le quartier de Laïramoun après de violents affrontements et les combats se poursuivaient pour le contrôle d'un autre quartier rebelle, Bani Zaïd, désormais encerclé, selon l'OSDH. Les forces du régime ont par ailleurs largué des barils d'explosifs dans le quartier d'Al-Mashhad. Elles bombardent régulièrement les quartiers rebelles d'Alep depuis le 17 juillet et les rebelles répondent en bombardant massivement les quartiers pro-régime, tuant également de nombreux civils. Ils utilisaient les quartiers de Laïramoun et Bani Zaïd pour tirer leurs roquettes. Selon l'agence SANA, l'armée a envoyé des SMS aux habitants identifiant des passages sécurisés pour les civils désirant fuir et exhortant les rebelles à rendre les armes.
Et c'est encore le choc au Japon, où les autorités poursuivent leur enquête sur la tuerie de ce matin dans un centre pour personnes handicapées qui a fait 19 morts et plusieurs dizaines de blessés. Cependant, elles ont écarté la possibilité d'une attaque terroriste. Le secrétaire en chef du cabinet et porte-parole du gouvernement de Shinzo Abe a déclaré qu'il n'y a aucune preuve d'un lien quelconque entre l'agresseur et le groupe État islamique.
En Allemagne, les autorités confirment qu'un patient a tué par balle ce mardi un médecin travaillant dans un hôpital universitaire de Berlin. L'assaillant s'est suicidé peu après. Des tirs ont été entendus aux environs de 13 heures, heure locale, selon la police qui avait d'abord annoncé que le médecin était grièvement blessé, mais en vie. Aucune piste terroriste pour le moment, ajoutent les responsables. Toutefois, le sud de l'Allemagne a été le théâtre de deux attaques revendiquées par Daesh durant la semaine écoulée.
Et l'armée afghane a tué plus de 120 combattants du groupe État islamique, y compris des commandants, dans le cadre d'une offensive qui a commencé pendant le week-end. C'est ce que la VOA a appris de sources officielles. Une base importante a également été prise à Nangar, non loin de la frontière pakistanaise, toujours selon les autorités. En début de soirée, les djihadistes n'avaient pas encore réagi.
Toute implication américaine dans de nouvelles tensions dans la péninsule coréenne entraînera des réactions graves. Avertissement lancé aujourd'hui par le gouvernement nord-coréen. Quelques heures auparavant, le secrétaire d'État américain John Kerry réitérait ses attaques contre Pyongyang à cause de son programme nucléaire. Lors d'une conférence au Laos sur la sécurité régionale, le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord, Ri Yong-ho, a remis en question la légitimité des sanctions onusiennes, disant qu'aucun article de la charte de l'ONU ne parle de tests de missiles ou de tests nucléaires comme une menace à la paix mondiale.
Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Maintenant, place à notre segment spécial sur la convention du Parti démocrate. Nous retrouvons sur place Tatiana Mousseau, notre envoyée spéciale. Tatiana, on attend le vote d'investiture de Mme Clinton ce soir et aussi le discours de son mari, l'ancien président Bill Clinton. Un programme chargé donc.
Dès ce matin, plusieurs délégations ont commencé à arriver. il y avait un caucus réservé aux femmes. Il faut savoir qu'hier a été une soirée marquante où plusieurs personnalités féminines, dont Michelle Obama, ont été présentes. Donc ce matin, elles avaient une session de travail, de rencontre de 2 heures. Ensuite, c'était sur les lesbiennes et les gays, puis les personnes âgées et ainsi que les gens du monde rural et enfin la jeunesse qui devrait se réunir de 2h à 4h de l'après-midi, des rencontres très importantes pour galvaniser l'électorat démocrate. Ensuite, on enchaînera à partir du milieu d'après-midi avec plusieurs personnalités aussi du Parti démocrate jusqu'à ce soir l'intervention de Bill Clinton qui est très attendue. Donc un programme chargé et où tout le monde a accès pour pouvoir venir écouter les nombreux discours. Et le but de toutes ces rencontres, c'est bien sûr d'essayer d'unifier le parti le plus possible.
Il y aurait des manifestations, Tatiana?
Déjà la veille, les partisans de Bernie Sanders avaient annoncé qu'ils n'arrêteraient pas leurs manifestations. Ils ont investi les rues de Philadelphie, comme on a pu le voir à plusieurs reprises. Et ce matin, malgré le discours de Bernie Sanders à appeler à voter pour Hillary Clinton, eh bien, ils sont descendus jusqu'au au National Constitution, où se trouvent différents plateaux de télévision, ainsi que plusieurs stands de la Convention démocrate. Et ils ont décidé de toujours montrer leur support à Bernie Sanders, quoi qu'il arrive.
Rapidement, quelques mots sur la soirée d'hier.
Ça a été une soirée pleine d'ovations. Il y avait un plateau de femmes exceptionnelles, à commencer par la première dame, Michelle Obama, qui a prononcé un discours très important et surtout un discours pour galvaniser l'électorat des minorités ainsi que des différentes communautés. Elle les a appelées à bien sûr voter pour Hillary Clinton.
Voilà, c'était Tatiana Mousso, notre envoyée spéciale à Philadelphie pour la convention du Parti démocrate.
Oui, et on peut suivre davantage tout ce que Tatiana nous réserve de cette convention sur notre site voafrique.com. Et parfois, on est aussi en direct sur Facebook avec Tatiana. Mais Morgane, Tatiana n'est pas seule à Philadelphie. VOAfrique a aussi sur place Idrissa Seloudia. Idrissa, Bill Clinton, un atout favorable ou une entrave potentielle à la campagne de son épouse Hillary Clinton?
C'est un risque mitigé, si je puis dire, dans la mesure où c'est toujours imprévisible avec Bill Clinton. On l'a vu lors de la première campagne de sa femme contre Barack Obama. Là, il s'était attiré les foudres des partisans et même du Parti démocrate dans la mesure où il avait fait des déclarations que d'aucuns trouvaient déplorables pour défendre sa femme. C'était pendant les primaires. Mais on a vu que pendant la dernière convention démocrate, c'est lui qui a littéralement sauvé la campagne de Barack Obama en venant devant les délégués pour leur expliquer ce qui se passait sur le plan économique et ce qu'il fallait attendre des programmes mis en place par Barack Obama, parce qu'on voyait qu'il était resté très, très populaire au sein du parti après 4 ans.
Je me souviens de son slogan « Ce n'est qu'une question d'arithmétique ».
Exactement. Alors, le problème maintenant, c'est que Donald Trump, déjà pendant les primaires, s'était mis à l'attaquer en disant « Mais écoute, si Bill Clinton m'attaque, alors en ce moment-là, tout est permis. »
Tout est permis, c'est-à-dire qu'il va revenir sur les histoires comme par exemple Monica Lewinsky, Jennifer
Exactement.
Flowers.
Exactement, et il n'a pas été très subtil à ce sujet. Il a dit carrément qu'il allait parler de ça et il a été même jusqu'à accuser Hillary Clinton d'avoir en quelque sorte tolérer ce genre de situation et d'avoir aussi maltraité les femmes qui étaient en réalité victimes de son mari. Donc, quand on l'accuse d'être un misogyne, il dit en réalité « Regardez ce que Bill Clinton a fait à toutes ces femmes ».
Idrissa Seloudia, Bill Clinton ne va sûrement pas parler de Bill Clinton ce soir.
Comme je dis, c'est imprévisible. Avec lui, bon, il va parler sans doute de son administration.
Ou bien est-ce qu'il va tout simplement présenter sa femme à l'Amérique?
Il peut le faire, mais de toute façon, est-ce que vraiment... les gens s'attendent à ce qu'ils disent tout le bien possible sur sa femme. C'est tout à fait naturel.
Que devrait-il éviter?
Il faudrait qu'il évite de parler carrément de certains problèmes. Par exemple, certaines politiques qu'il a préconisées et que même les gens de Bernie Sanders rejettent, par exemple le NAFTA, l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Beaucoup de démocrates disent que c'est ce genre d'accord qui sont à l'origine des pertes et des exportations d'emplois aux États-Unis.
Merci Idrissa Seloudia.
Merci Gaby et à bientôt.
Idrissa Seloudia, envoyé spécial de VOA Afrique à la Convention démocrate à Philadelphie en Pennsylvanie.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et chérubin Gaby Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour, au premier escale, la RDC.
Le célèbre chanteur congolais Koffi Olomide a été interpellé à son domicile de Kinshasa. Samedi dernier, il a été expulsé du Kenya après avoir été filmé donnant un violent coup de pied à l'une de ses danseuses. Sur le sort réservé à l'artiste, Idriss Fall a joint Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement congolais à Kinshasa.
Eh bien, l'incident de l'aéroport Jomo Kenyatta à Nairobi a été jugé suffisamment grave par le parquet de Kinshasa, qui a invité M. Koffi Olomide à comparaître devant un procureur de Kinshasa pour être entendu sur les faits. Il est encore en train d'être entendu. Et ce n'est qu'à l'issue de cette audition que le procureur décidera de la suite à donner à cet incident. Pour l'instant, on ne peut rien présumer.
Est-ce qu'il y a eu une plainte déposée contre Koffi Olomide?
Vous savez, l'office du procureur se saisit d'office lorsqu'il y a une infraction pénale ou peut être saisi par plainte. Et jusque maintenant, je ne suis pas en mesure de vous dire s'il y a eu plainte ou pas. Mais le procureur, dans le droit congolais, peut aussi se saisir d'office, même sans plainte, lorsque l'incident est jugé grave.
Apparemment, l'artiste a présenté ses excuses télévisées hier soir, non?
Cela n'a rien à voir avec le fait lui-même dans sa nature d'infraction pénale. Si c'est une infraction pénale, que vous présentiez des excuses ou non, le procureur a tout à fait le droit de chercher à savoir ce qui s'est passé et de y réserver la suite qu'il jugera utile en droit congolais.
Mais les faits se sont passés à l'étranger, pas en territoire congolais.
Naturellement, mais la victime est un Congolais et donc l'infraction, si elle est établie, peut donner lieu à des poursuites. Je parle bien de peut donner lieu parce qu'il n'y a aucune poursuite qui est décidée. Pour l'instant, on entend encore M. Koffi Olomide, et nous ne savons pas quelle sera la conclusion du procureur qui l'entend.
Je vous remercie. Donc, on ne peut même pas parler de peine de prison ni de réquisitoire, alors, pour le moment.
Non. Non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, le parquet ne prononce aucune peine de prison. Le parquet, lorsqu'il conclut en la réalité d'une infraction, défère la personne devant le juge du siège. Nous n'en sommes pas encore là.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement à Kinshasa.
Les postiers gabonais sont en grève illimitée depuis lundi. La poste est au bord de la faillite et les employés non licenciés se plaignent d'irrégularités dans le versement de leur salaire. Nathalie Barge a joint Gilbert Ekoga Ondo, ancien président du syndicat national des agents de la Poste, qui explique pourquoi les caisses sont totalement vides.
La mauvaise gestion commence en 2013. C'était en fait des manœuvres purement organisées par certains responsables. Si vous aviez un carnet d'épargne et que vous connaissez quelqu'un là-bas, vous allez vous présenter votre carnet d'épargne. Si c'est 40 000 francs, on met par exemple 4 millions, vous donnez 2 millions à celui qui fait l'opération et vous avez 2 millions. Et cette année, il y a eu maintenant des prêts des hautes autorités de ce pays qui ont fait des prêts énormes. Et le trou est estimé à plus de 100 milliards de francs CFA. C'est à ce moment-là qu'on a été obligé de débaucher le directeur général et le directeur de la caisse d'épargne.
Est-ce que la Poste aujourd'hui est au bord de la faillite?
la poste est pratiquement en faillite parce que bon, les agents qui sont en grève là, ils ont 2 mois d'impayés et le plus souvent ça devient plus ou moins le courroie de passation des salaires des retraités, des étudiants, de quelques fonctionnaires qui sont restés là-bas par malchance.
Le président du Sinapost reproche au directeur général le fait qu'aujourd'hui il embauche alors qu'on a licencié beaucoup de gens et qu'on va peut-être encore en licencier, qu'il embaucherait aujourd'hui des gens avec de hauts salaires.
Quand on avait essayé un peu de diminuer les effectifs au niveau de la poste, on avait fait partir beaucoup de gens. Mais après, ils ont fait encore des recrutements. Ils ont cherché à recruter des gens qui avaient des connaissances à la banque. Mais le plus souvent, ce n'était pas vraiment ça. C'était des recrutements par connaissance. Et tout ça, toute cette somme de mauvaise gestion, c'est ce qui a entraîné le clash qu'on a aujourd'hui. Une mauvaise gestion, c'est les grands responsables du pays qui ont pris des crédits, d'énormes crédits, qui ne les remboursent pas. Alors que bon, c'est sur l'épargne qu'ils ont pris cet argent-là. Et c'est pourquoi pratiquement tous ceux qui avaient des comptes avant octobre 2015, tous ces comptes-là étaient purement et simplement mis à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul franc.
Quelle issue voyez-vous à cette situation ?
C'est que l'État qui a pris l'argent, bon, parce qu'ils savent qui, quels sont les gens qui ont pris cet argent, qui leur rendent cet argent.
Gilbert Ekoga-Ondo du ministère de l'économie numérique et de la Poste au Gabon. L'intégralité de cet entretien sur voaafrique.com.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Cap maintenant sur le Soudan du Sud, où le président Salva Kiir s'est débarrassé hier de son rival Riek Machar. Dans un décret, il a ordonné la nomination de Tabande Ndiaye au poste de vice-président. Alors, quelles sont les implications de cette décision sur l'accord de paix signé à Addis Abeba le 26 dernier? Éric Manirakiza a joint en France Roland Marchal, chercheur sur la Corne de l'Afrique au CERI, Centre d'études de relations internationales.
Le premier effet, c'est que aujourd'hui, on tend à oublier de se demander qui sont responsables des affrontements à Djouba dizaines de jours maintenant. Ça, c'est inquiétant parce que ça veut dire que l'impunité va continuer. La deuxième chose, c'est que évidemment, cette nomination, elle va diviser le camp de Riek Machar et d'une certaine façon, elle fait craindre des affrontements qui, au moins dans un premier temps, seraient localisés dans les zones où Riek Machar est le plus populaire et les nuers sont les plus nombreux. Et puis, troisième effet, si vous voulez, c'est que l'exclusion, enfin la mise à pied de Riek Machar, même si juridiquement elle n'est sans doute pas une aberration, elle pose le problème de l'accord de paix qui a été signé en juillet dernier et de la continuité de cet accord de paix. Est-ce qu'il faut, à partir de là, considérer que cet accord de paix est fort clos, qu'il n'a plus aucune valeur, puisqu'il y a un nouveau leader, un nouveau vice-président qui va prendre des décisions librement ou est-ce que c'est simplement le remplacement d'un homme par un autre? Mais en général, dans les accords de paix, le choix est laissé à la partie et pas à l'adversaire. On a le droit d'être extrêmement inquiet sur ce qui va se passer au Sud-Soudan dans les semaines qui viennent.
Le président Salva Kiir s'est appuyé justement sur les dissensions au sein de l'ex-rébellion. Est-ce que c'est dans son intérêt?
Ce conflit est un conflit très politique. Il a différentes dimensions, une dimension ethnique évidemment, mais qu'il a aussi une dimension personnelle. Donc on peut imaginer que voir Riek Machar disparaître de Djouba est plutôt une bonne nouvelle pour Salva Kiir. Maintenant, je crois que Salva Kiir n'est pas un homme d'État et il est très possible, une fois de plus, qu'il se soit laissé aller et qu'il ait suivi le conseil de son entourage et qu'il ait pris cette décision sans en mesurer toutes les conséquences.
L'Union africaine veut une force beaucoup plus de mandat pour pour se battre. Est-ce que vous pensez que c'est une force qui peut remettre de l'ordre à Djouba?
Ce qu'il aurait fallu faire, c'était évidemment démilitariser Djouba. Je suis assez étonné que les Nations Unies aient si mal travaillé à cet objectif. Alors on peut rajouter une force de l'Union africaine qui sera peut-être un peu plus disposée à avoir des victimes. Mais il faut le dire crûment, il n'est pas question que l'Union africaine fasse la guerre à l'armée soudanaise dans la capitale.
Roland Marchal, joint en France.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
Au Cameroun, la société Tradex mettra un peu plus de 15 000 bouteilles de gaz en vente dès le mois de septembre prochain. La presse locale souligne que ces 15 000 nouvelles bouteilles de gaz représentent le premier stock des 45 000 qui seront mises sur le marché d'ici la fin de l'année, une période où les pénuries de gaz se multiplient très souvent. Standard Bank continue son expansion sur le continent. Le groupe bancaire sud-africain vient en effet d'obtenir une licence d'établissement bancaire en Côte d'Ivoire, la 20e du genre en Afrique. Standard Bank Côte d'Ivoire va démarrer avec un capital de 12 milliards de francs CFA, un capital qui devrait être porté à 37 milliards de francs CFA d'ici 4 ans. Le monde a besoin de 31 000 nouveaux pilotes de ligne par an pour répondre à l'augmentation des flottes aériennes. C'est ce qu'indique l'avionneur Boeing dans une nouvelle étude. Au total, il faudrait engager plus de 600 000 nouveaux pilotes de ligne d'ici 2035, dont 22 000 en Afrique.
Pour l'actualité sportive, nous avons avec nous ce soir Nicolas Pineau. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Football, le mercato se poursuit en cette période estivale.
Le milieu de terrain de Guingamp, Younous Sangaré, s'est engagé pour 4 saisons avec Lille. L'international sénégalais, qui aura 27 ans en septembre, était en contact depuis plusieurs semaines avec le LOSC, qui devait d'abord se séparer de différents joueurs avant de pouvoir le faire venir. On rappelle que ce puissant milieu de terrain mesure 1m84, 76 kg. Il a été formé au Paris Saint-Germain. Il a disputé cette année 33 rencontres de Ligue 1. Il a marqué 6 buts avec la formation bretonne.
Et la Juventus de Turin qui casse sa tirelire.
L'attaquant argentin Gonzalo Higuain, dont la clause libératoire avait été fixée par Naples à 94 millions d'euros, selon la presse italienne, eh bien, il a été transféré de Naples à la Juventus de Turin. C'est ce qu'a confirmé le directeur sportif de la Vieille Dame. On rappelle que Gonzalo Higuain est le meilleur buteur du Calcio la saison dernière avec 36 réalisations. Pendant ce temps, en match amical à Melbourne en Australie, la Juventus de Turin a battu Tottenham 2-1.
Parlons des Jeux Olympiques de Rio, Nicolas. Les Jeux approchent et le dopage plane toujours autour de la compétition.
Oui, le champion olympique allemand du disque, Robert Harting, a accusé Thomas Bach, le président du Comité international olympique, de faire partie du système de dopage après sa décision de ne pas suspendre le Comité olympique russe des Jeux de Rio. Harting, champion olympique en 2012 à Londres et 3 fois champion du monde entre 2009 et 2013, a déclaré ne pas comprendre cette décision. On rappelle que le champion de 31 ans est un critique de longue date de son compatriote Thomas Bach. Selon lui, le CIO déçoit encore un peu plus.
Voilà pour l'actualité sportive. Merci Nicolas Pineau.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Wake up, stand up, Africa. Come on, so bubba. Come on, inga dawn, a dawn. Lubarenga am, lubarenga man. Manula na penny. Imagine it is your wealth. Imagine how your dreams. Ce que j'ai à ton nom, c'est tiré histoire. Say way at say fetch, teranga say dom, manule vereni. Imagine it.
C'est la fin de cette édition. Joselle Morissin assurait la mise en onde avec l'assistance technique de Wagner Robert à la console. Présentation Morgane Guériac et Gaby Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VO Afrique, votre fenêtre sur l'actualité. Merci à nos 1,5 million de fans sur Facebook. On maintient la conversation, partagez vos photos et vidéos, envoyez-nous vos questions et commentaires. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.